Chapitre 14. Le petit train s'enfonçait dans son tunnel à 80 à l'heure. Caise gardait les yeux fermés. La douche avait aidé, mais il avait vomi son petit déjeuner. Lorsqu'en baissant les yeux, il avait vu le sang de Pierre teinté de rose le carrelage blanc. La pesanteur s'effondrait à mesure que s'étrécissait le fuseau. Son estomac se rebellait. Aérol l'attendait avec son scooter près du quai. « Caise, Mac, gros problème !» Voix douce à peine audible dans ses écouteurs. Il monta le volume et lorgna à travers la visière en l'exempt du casque d'Aérol. « Faut qu'on rejoigne le Garvet, Aérol. »« Yo, attache-toi, Mac !»« Mais le Garvet est prisonnier. »« Le yacht qui était déjà venu, ben, a s'est repointé. »« Et à présent, il surveille de près Marcus Garvet. »« Turing, déjà venu ?» Caise grimpa dans le bâti du scooter et se mit à attacher son harnais. « Le yacht japonais qui avait amené ton colis, Armitage. » Des images confuses d'araignées et de guêpes jaillirent à l'esprit de Caise lorsqu'ils arrivèrent en vue du Marcus Garvet. Le petit remorqueur était blotti contre le thorax gris d'un vaisseau lisse, insectiforme, 5 fois long comme lui. Les bras de grappin se détachait devant la coque rafistolée du Garvet avec l'étrange limpidité du vide sous la lumière solaire crue. Une pâle passerelle ondulée jaillissait du yacht, serpentait latéralement pour éviter les moteurs du remorqueur et recouvrait le sas arrière. Il y avait quelque chose d'obscène dans cette disposition, mais c'était plus en rapport avec des idées de nourriture que de sexe. Qu'est-ce qu'il arrive à Malcolm ? « Malcolm va bien. Personne n'est descendu. Le pilote du yacht lui a parlé, l'a dit relax. » Alors qu'il dépassait le vaisseau gris, Caise vit le nom Aniwa nettement inscrit en capitale blanche sous un amas oblong de caractère japonais. « J'aime pas ça, mon vieux. Je croyais qu'il était peut-être temps de tirer notre cul d'ici vite fait. C'est exactement ce que pense Malcolm, Mac. Mais Garvet va pas décoller comme ça. » Malcolm ronronnait à toute vitesse en patois dans sa radio lorsque Caise pénétra par le sas avant et retira son casque. « Aérol est retourné au rocker, » dit Caise. Malcolm acquiesça, sans cesser de murmurer dans son micro. Caise se hissa par-dessus l'enchevêtrement dérivant de nattes du pilote et commença à doter sa combinaison. Les yeux de Malcolm étaient clos à présent. Il hochait la tête en écoutant quelques réponses dans une paire d'écouteurs aux oreillettes orange vif. Le front plissé de concentration. Il portait des jeans effrangés et un vieux blouson de nylon vert aux manches décousues. Caise fourra la combinaison rouge sagno dans un filet de rangement et se glissa dans le hamac antigé. « Regarde voir ce que dit le fantôme Mac, » dit Malcolm. « L'ordinateur arrête pas de te réclamer. Bon alors, qui est là-haut dans ce truc ? Le même japonais qui est déjà venu. Et v'là qu'il est rejoint par votre monsieur Armitage, au retour de zone libre. » Caise se posa l'étrode et se connecta. Dixie ? La matrice lui montrait les sphères roses du cartel sidérurgique dans le Sikkim. « Qu'est-ce que tu fricotes, mon gars ? J'ai entendu des histoires terrifiantes. Le Osaka est maintenant raccordé à une banque jumelle sur le navire de ton patron. Ça déménage sec. Tu t'es chopé les flics de Turing ?
Ouais, mais Muet d'hiver les a tués.
Ouais, bon, mais ça les retiendra pas longtemps. Ils en ont encore des masses en réserve. Vous débarquez ici en force. Je parie que leur console quadrille tout ce secteur de la grille comme des mouches sur la merde. Et ton patron, Caise, il te dit d'y aller ? Il te dit de lancer ta passe et tout de suite ? »
Caise entra les coordonnées de zone libre.
« Laisse-moi prendre ça une seconde, Caise. » La matrice se brouillait, puis se recalait alternativement, tandis que le trait plat exécutait une série complexe de sauts avec une vitesse et une précision qui faisaient grimacer d'envie Caise.
« Merde, Dixie ! Hé, gars ! J'étais bon comme ça de mon vivant ! T'as encore rien vu et sans les mains !
C'est ça, hein ? Le gros rectangle vert tout là-bas à gauche ? T'as tout bon. La mémoire centrale du siège de la Tessier H-Pool SA Et cette glace est générée par leurs deux gentils IA. Des trucs, au niveau de tout ce qui existe dans le secteur militaire, m'en a tout l'air. C'est de la putain de glace de première, Kez. Noire comme la tombe et lisse comme le verre. Ça te crame la cervelle au premier regard. On s'approche un poil maintenant. Il nous met des traceurs au cul et pointe les deux oreilles. Histoire d'aller révéler aux garçons dans le placard de la TA la taille de tes chaussures et la longueur de ton zob. L'a pourtant pas l'air méchant, non? Je veux dire, les Turing sont déjà passés dessus. Je pensais qu'on devrait peut-être essayer de se tirer une bourre. Je peux te prendre avec moi? Ouais, sans déconner? Tu veux pas voir ce que peut faire ce programme chinois? Ben je... Kez fixa les parois vertes de la glace TA. Oh, puis merde, t'as raison, on y va. Charge-le. Hé, Malcolm, dit Kez, en se débranchant un instant. Je vais sans doute rester sous les trottes durant quelque chose comme 8 heures d'affilée. Malcolm s'était refait un joint. La cabine nageait dans la fumée. Alors, je pourrais pas aller aux chiottes? Pas de problème, Mac. Le sionite exécuta une grande pirouette avant pour aller fourrager dans le contenu d'un sac en toile zippée et revenir avec un rouleau de tube transparent et autre chose, un truc scellé dans un sachet de plastique stérile. Il appelait ça un cathéter texan, et Kez n'aimait pas du tout l'allure du bidule. Il chargea le virus chinois, marqua une pause, puis le guida. « Ok, fit-il, on est bon. Écoute, Malcolm, si ça commence vraiment à sentir le roussi, tu peux me serrer le poignet gauche. Je le sentirai. Sinon, je suppose que t'as qu'à suivre les instructions du Osaka. Dak ? Bien sûr, Mac. » Malcolm s'alluma un joint tout neuf. Et mets le nettoyeur, j'ai pas envie que cette merde vienne me titiller les neurotransmetteurs. Qui plus est, je me suis chopé une sale gueule de bois. Sourire de Malcolm. Kez se rebrancha. Bon Dieu de bois, dit le tréplat, vise-moi un peu ça. Le virus chinois se dépliait autour d'eux. Ombre polychrome, innombrables couches translucides qui se modifiaient et se recombinaient. Changeant, énorme, il les dominait de toute sa taille, masquant le vide. « Bonne mère !» s'exclama le tréplat. « Je vérifie Molly, » dit Kez, en enfonçant l'inter du Simstim. Chute libre. La sensation était analogue à un plongeon dans une eau parfaitement limpide. Elle tombait, remontait à travers un large tube de béton lunaire cannelé, éclairé à intervalles de 2 mètres par des anneaux de néon blanc. La liaison était à sens unique. Il ne pouvait lui parler. Il cliqua. Gamin, c'est une méchante tranche du logiciel. Le truc le plus fameux depuis l'invention du fil à couper le beurre. Ce putain de bidule est invisible. Je viens tout juste de me payer 20 secondes sur cette petite boîte rose. 4 sauts à gauche de la glace TA. Histoire d'aller voir un peu à quoi on ressemblait vu de là-bas. Eh bien, peau de balle, on n'est pas là. Kez fouilla la matrice autour de la glace Tessier-Hachepoule jusqu'à ce qu'il ait trouvé la structure rose. Une unité commerciale standard, et d'un coup de curseur, il s'en rapprocha. Défaillance technique, peut-être? Peut-être, mais j'en doute. Et notre bébé est militaire. Et tout neuf. Pourtant, il n'a tout bonnement rien relevé. Sinon, on serait apparu comme une espèce d'attaque furtive des Chinois, alors que personne n'a moufté. Et peut-être même pas les mecs à Lumiérante. Kez observait toujours le mur lisse qui masquait Lumiérante. Eh bien, c'est un avantage, non? Peut-être. Rire approximatif du construct. Kez grinça des dents. Je t'ai encore vérifié ce vieux Kuang 11, gamin. Il est vraiment convivial, aussi longtemps que t'es du côté de la détente. Bien poli, et tout ce qu'il y a de serviable. Même qu'il parle en bon anglais. Déjà entendu parler de virus lent? Non. Moi si, une fois. Rien qu'une idée en l'air à l'époque. Mais c'est tout l'intérêt de ce bon vieux Kuang. Pas le genre. On fonce et on s'injecte. Non, ça serait plutôt comme si on s'interfaçait avec la glace en douceur. Tellement en douceur qu'elle ne le sent même pas. L'interface du logiciel Kuang s'insinue pratiquement dans la cible en se modifiant de manière à devenir exactement comme la trame de la glace. Ne reste plus ensuite qu'à verrouiller, et à ce moment,
intervient le programme principal qui se met à tourner en boucle histoire d'étourdir la logique de la glace. Et nous, on n'a plus qu'à venir se coller dessus comme des frères siamois avant même qu'ils aient eu le temps de s'exciter. Le trèpe-là rigola. « J'aimerais mieux te voir moins enjoué aujourd'hui, mec. T'as un rire qu'aurait tendance à me taper sur le système. »« Pas de peau, dit le trèpe-là. Le vieux bonhomme a bien besoin de son rire. » Kez écrasa l'inter du Simstim. Et s'écrasa à travers un amoncellement de métal enchevêtré dans l'odeur de poussière, paume des mains dérapant sur du papier gras. Quelque chose derrière lui s'effondra avec bruit. « Allons, dit le Finnois, on se calme. » Kez s'était étalé au milieu d'une pile de revues jaunissantes, filles éclatantes en plein sous son nez dans la pénombre de la métro Holographix, galaxie nostalgique de doux sourires dents blanches. Il resta affalé le temps que son cœur ralentisse, respirant l'odeur des vieux magazines. « Muet d'hiver, » fit-il. « Ouais, » dit le Finnois quelque part derrière lui, « t'as tout pigé. Allez vous faire foutre !» Kez se releva en se massant les poignets. « Allons, allons !» intervint le Finnois en sortant d'une espèce d'alcôve ménagée dans le mur d'ordure. « C'est mieux comme ça pour toi, mec !» Il sortit ses partagas d'une poche de son manteau et en alluma un. L'odeur du tabac cubain emplit la boutique. « Tu préfères que je t'apparaisse dans la matrice comme un buisson ardent ?»« Tu manques rien ici. Une heure de temps ici ne te prend que 2 secondes. » « Vous croyez peut-être muser les nerfs à m'apparaître comme ça sous l'aspect des gens que je connais. » Il se redressa, essuyant la poussière pâle sur le devant de son jean noir. Il pivota pour lorgner les vitrines poussiéreuses, la porte fermée sur la rue. « Ça donne où ici ? New York ? Ou bien ça s'arrête simplement ?»« Eh bien, dit le Finnois, c'est le même coup que l'arbre, tu sais. Il tombe dans la forêt, mais peut-être bien qu'il n'y a personne pour l'entendre. » Il montra à Kez ses grosses incisives et tira sur son cigarillo. « Tu peux sortir faire un tour si tu veux, tout est là, ou du moins, toutes les parties que tu as jamais eu l'occasion de voir. Après tout, c'est ta mémoire, pas vrai? Je t'ai recopié, je trie, et je te restitue le tout. » « Je n'ai pas une si bonne mémoire que ça, » remarqua Kez en regardant autour de lui. Il baissa les yeux sur ses mains, les retourna paume levée. Il essaya de se souvenir à quoi ressemblaient les lignes de sa main, mais en vain. « On a tous une bonne mémoire, » dit le Finnois, laissant tomber sa cigarette pour l'écraser sous le talon. « Mais rares parmi vous sont ceux capables d'y accéder. Les artistes y parviennent, essentiellement s'ils ont le moindre talent. Si tu pouvais plaquer cette reconstitution sur la réalité, la véritable boutique du Finnois dans le bas de Manhattan, tu verrais une différence, mais peut-être pas autant que tu t'imagines. Pour vous, la mémoire est holographique. » Le Finnois tira le lobe d'une de ses petites oreilles. « Pour moi, c'est différent. » « Que voulez-vous dire, holographique ?» Le terme lui faisait penser à Riviera. « Le paradigme holographique est ce que vous avez mis au point de plus proche d'une représentation de la mémoire humaine. Voilà tout. Mais vous n'en avez jamais rien fait. Les gens, je veux dire... » Le Finnois fit un pas en avant et inclina son crâne profilé pour lorgner Kez de plus près. Peut-être que dans le cas contraire, tout ça ne se produirait pas. Et c'est censé signifier quoi? Le Finnois haussa les épaules. Sa veste en tweed élimée était trop large aux épaules et ne tombait pas parfaitement. J'essaye de t'aider, Kez. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. Nouvelle apparition des grandes dents jaunes. Et parce que tu as besoin de moi. Connerie! Tu peux lire dans mon esprit, le Finnois. Pardon, muet d'hiver. On ne lit pas dans les esprits. Tu vois une preuve supplémentaire que tu gardes encore les paradigmes que t'a donné l'imprimé. Et pourtant, tu es pratiquement illettré, question culture imprimée. Non, je peux accéder à ta mémoire, mais ce n'est pas la même chose que ton esprit. Il tendit la main vers le châssis dénudé d'un antique téléviseur pour en retirer un tube à vide, argent et noir. « Tu vois ça? Eh bien, c'est une partie de mon ADN, si l'on veut. » Il balança le tube dans l'ombre, et Kez l'entendit claquer avec un bruit de verre brisé.
Vous passez votre temps à bâtir des modèles, des cercles de pierre, des cathédrales, des orgues à tuyaux, des machines à additionner. Je n'ai aucune idée de la raison de ma présence ici, tu sais ça? Mais si la passe est lancée ce soir, vous serez en fin de compte parvenu à toucher au vrai truc. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand je dis vous, je parle en général de votre espèce. Vous avez tué ces Turing? Haussement d'épaule du Finnois. Fallait bien. Tu devrais faire un peu gaffe. Il t'aurait liquidé sans l'ombre d'une hésitation. En attendant, pourquoi t'ai-je fait venir ici sinon pour parler? Tu te souviens de ça? Et sa main droite tenait les restes carbonisés du nid de guêpe de son rêve, puanteur de l'essence dans l'espace confiné de la boutique obscure. Kez recula en titubant contre le mur de détritus. Ouais, c'était moi. Je l'ai fait grâce à l'équipement holo intégré dans la fenêtre. Encore un souvenir que je t'ai repiqué quand tu t'es cramé la première fois. C'est pourquoi c'est important? Kez fit non de la tête. Parce que Elni, d'une manière ou d'une autre, avait disparu. C'est ce que t'as trouvé de plus ressemblant à ce vers quoi voudrait tendre Tessier Ashpool, son équivalent humain, lumiérante et comme ce nid, ou à tout le moins elle est censée fonctionner de cette manière. Je suppose que ça te mettra plus à l'aise. Plus à l'aise? De savoir à quoi il ressemble. Depuis un moment, tu commençais à me haïr, très bien, mais haïlais plutôt. Même différence. Écoutez, fit Kez en avançant d'un pas. Eux, au moins, ils ne m'ont jamais emmerdé. Vous, c'est différent. Mais il était incapable d'éprouver la moindre colère. Alors, à la TA, ils m'ont créé. La Française, elle disait que tu trahissais ton espèce. Le démon, voilà ce que j'étais pour elle. Le Finnois sourit. Ça n'a guère d'importance. Faut que tu te trouves à haïr quelqu'un avant que tout soit terminé. Il pivota pour se diriger vers le fond de la boutique. Eh bien, allons-y. Je vais te montrer un petit bout de lumiérante pendant que je t'ai sous la main. Il souleva le coin de la couverture. Une lumière blanche s'en déversa venue de derrière. Merde, mec, reste donc pas planté là. Kez le suivit, se frottant le visage. Ok, dit le Finnois, et il le prit par le coude. Ils furent aspirés au-delà du rideau de laine ranci dans un tourbillon de poussière, basculant en chute libre dans un corridor cylindrique de béton lunaire cannelé, annelé de néon blanc à 2 mètres d'intervalle. « Seigneur !» fit Kez, tout en culbutant. « C'est l'entrée principale, » expliqua le Finnois, sa veste en tweed volant derrière lui. Si ce n'était pas une reconstitution de mon cru, là où est la boutique, se trouverait la porte principale, côté axe de zone libre. Il ne faudra toutefois pas trop chercher dans les détails, faute de souvenirs de ta part, à l'exception de ce secteur ici que tu tiens de molli. Kez réussit à se redresser, mais entama une vrille. « Accroche-toi, » avertit le Finnois, « je nous passe en défilement rapide. » Les murs devinrent flous. Sensation vertigineuse de plongeon en avant. Couleurs qui disparaissaient dans les angles et filaient au long des 3 corridors. Ils parurent à un moment franchir l'épaisseur d'un mur sur plusieurs mètres, éclair d'obscurité totale. « Là !» dit le Finnois, « c'est ici !» Ils flottaient au centre d'une pièce parfaitement carrée, murs et plafonds caissonnés de panneaux rectangulaires de bois sombre. Le sol était recouvert d'un carré de moquette d'un seul morceau, moquette en laine éclatante, dont le motif reproduisait un micro-circuit en camaïeu d'écarlate et de bleu. Au centre précis de la pièce, exactement aligné avec la trame du tapis, se dressait un piédestal carré de verre blanc dépoli. « La villa lumiérante !» annonça la tête ouvragée posée sur le piédestal, d'une voix pareille à de la musique. « Est un corps qui s'est développé de son propre chef, une folie gothique. Chaque espace en lumiérante est en quelque manière secret. Cette série infinie de chambres étant reliée par des passages, des escaliers voûtés, pareils à des intestins, où l'œil se voit sans cesse piégé par des courbes étroites, le regard détourné par des paravents décorés, attirés par des alcôves vides. Dissertation de 3 gènes,
indiqua le Finnois en sortant ses partagas.
Elle l'a écrite à 12 ans, en cours de sémiotique.
Les architectes de zones libres ont eu les plus grandes difficultés à dissimuler le fait que l'intérieur du fuseau est disposé avec la banale précision d'un mobilier de chambre d'hôtel. À lumière ante, la surface interne de la coque est recouverte d'une prolifération désespérée de structures, de formes qui s'épanouissent, s'enchevêtrent, s'élèvent en direction d'un noyau compact de micro-circuits. La mémoire centrale de notre clan, cylindre de silicone percé d'étroits tunnels d'entretien, certains pas plus larges qu'une main humaine. C'est là que sont enfouis les crabes brillants, que nichent les robots réparateurs, guettant le moindre signe de défaillance micromécanique ou de sabotage.
« C'est elle que t'as vue au restaurant, » indiqua le Finnois.
Selon les critères de l'archipel, poursuivit la tête, notre famille est ancienne, et les circonvolutions de notre base en sont le reflet. Mais elle reflète également autre chose. La sémiotique de la villa énonce un repliement, un refus du vide éclatant qui s'étend au-delà de la coque. Tessier et Ashpoule ont grimpé le puits de gravité pour s'apercevoir qu'ils abhorraient l'espace. Ils ont construit zone libre pour pomper les richesses des îles nouvelles, puis une fois devenus riches et excentriques, ils ont entrepris la construction d'une filiale à Lumiérante. Nous nous sommes alors protégés derrière le rempart de notre argent, nous développant à l'intérieur, en générant un univers autonome, parfaitement lisse. La villa Lumiérante ne connaît aucun ciel préenregistré ou autre. Dans le noyau de silicone de la villa se trouve une pièce exiguë, unique salle rectiligne de tout le complexe. C'est ici, sur un banal piédestal de verre, que repose un buste décoré, en émail cloisonné de platine, incrusté de perles et de lapis-lazuli. Les billes éclatantes de ses yeux ont été taillées dans le rubis synthétique des hublots du vaisseau qui a fait monter le premier Tessier en haut du puits, avant de redescendre chercher le premier Ashpoule. La tête se tut.
« Eh bien ?» demanda enfin Kez, s'attendant presque à voir l'objet lui répondre.
« C'est tout ce qu'elle a écrit, » répondit le Finnois. « Elle ne l'a jamais achevé. Ce n'était qu'une gosse à l'époque. Cet objet est un terminal de cérémonie, en quelque sorte. Mais j'ai besoin que Molly se trouve ici, avec le mot juste, au bon moment. C'est la question piège. Tu peux t'enfoncer tant que tu veux avec ton trèplat et ce virus chinois. Cette chose n'en a rien à secouer tant qu'elle n'aura pas entendu le mot magique.
Eh bien, quel est-il ?
Je l'ignore. Tu pourrais dire que je me définis fondamentalement par le fait que je ne le sais pas, parce que je ne peux pas le savoir. Je suis celui qui ignore tout. Tu le saurais, mec, et tu me le dirais, que je ne pourrais pas le connaître. C'est câblé ainsi. Il faut que ce soit un autre qui l'apprenne et l'amène ici. À l'instant précis où le trèplat et toi perforez cette glace pour venir brouiller la mémoire centrale.
Que se passe-t-il alors ?
Je n'existe plus après ça, je cesse.
Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, dit Kez.
Bien sûr, mais gaffe à tes miches, Kez.
Mon autre lobe est sur nous, apparemment.
Un buisson ardent peut en cacher un autre.
Et Armitage s'est mis en branle.
Ce qui veut dire ?
Mais la porte cloisonnée se repliait déjà selon une douzaine d'angles impossibles, culbutant dans le cyberspace comme une grue en origami.